18h, 19h, Tribune Nord, Sylvain Charlet, sur France Bleu Nord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Tribune Nord. On est ensemble pendant une petite heure, l'épisode 31 de cette nouvelle saison de Tribune Nord. On le disait à l'instant, le ballon Kip Stade Décathlon est à gagner. Ce soir, je vous poserai la question de sélection juste avant 18h30 pour bien entendu vous permettre de remporter ce ballon d'une valeur de 80 €. C'est le ballon officiel de la Ligue 1. Notre partenaire Kip Stade Décathlon vous offre ce cadeau tous les lundis dans Tribune Nord. On va revenir bien entendu sur la nouvelle des illusions lensoises. Lens tenu en échec par Le Havre. Il y a quelques petites tensions en interne. Il y avait du fatalisme samedi soir, on en parle ce soir. Lille toujours à la lutte pour le top 3 juste avant de défier Aston Villa en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Là aussi on va en parler. Je n'oublie pas également le sourire de Rémi Cabella, de nouveau titulaire avec le LOSC. Il sera notre joueur de la semaine. On aura également au programme la Ligue 2, le Topcom ou encore le quiz. Ils sont réunis ce soir autour de la table. En attendant notre coach qui ne devrait pas tarder, Chebdin Insi, le coach de Lille Délivrance qui évolue en district, qui est un habitué de Tribune Nord. Sandrine Arestier de la Voix du Nord et de la Voix des Sports. Salut Sandrine, bienvenue.
Salut Sylvain, salut à tous, merci.
Bienvenue également à Mathieu Rapès qui était aussi sur les routes du Tour de France. Il y sera peut-être sur le
c'est
Tour de France.
C'est encore mieux. Ouais. on a hâte aussi, mais bonsoir à tous.
C'est mieux Paris-Roubaix, le Tour de France.
C'est unique Paris-Roubaix.
Adrien Bray est là pour France Bleu Nord également. Salut Adrien.
Salut Sylvain.
Mathieu Rapès, je l'ai dit, Mathieu Dervaux est là pour l'Indicateur des Flandres et pour France Bleu Nord.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Et notre coach est arrivé. Salut Chebdin Insi.
Salut, ça va? Désolé pour le retard. Hein.
Ça va, l'émission vient de commencer. On est dans les temps, c'est parti.
Tribune Nord, l'info du week-end.
Eh bien, l'info du week-end, c'est que le LOSC est toujours en course pour les places européennes, les quatre premières places européennes, synonyme de Ligue des Champions. Lille s'est imposée face à Marseille. Lille a désormais 5 points d'avance sur Nice, le 5e, et seulement 3 de retard sur Monaco. Jonathan David, pour donner l'avantage, il s'élance, c'est frappé contre pied, ça rentre. Et Bentaleb pour Cabella à l'entrée de la surface de réparation, il va remettre pied.
Oui,
oh le but,
oh, quel but.
Oh le magnifique but de Rémi Cabella. La récupération de Bentaleb. Il trouve Rémi Cabella dans l'intervalle. Il rentre pied droit à l'intérieur de la surface de réparation. Et il enveloppe pied droit. Et il va quasiment chercher la lucarne opposée. Bon, axial. Bentaleb qui redonne à l'angle droit pour Zegrova qui donne à Thiago Santos qui s'entre en retrait. Vas-y Goodmoutier, yes. Ah. Oh Gabi! Oh Gabi! Le but de Gabi! Voilà, on est lancé dans cette course, une course à 3 quasiment, hein, puisqu'on a Brest 53 points, Monaco 52 points, Lille 49 points. Est-ce qu'on peut dire, Sandrine Arestier, que par exemple, désormais, pour les équipes qui sont derrière, c'est terminé, puisque Nice est à 40 points, à 44 points, Lens 43 points, Reims 40 points, ou encore Marseille 39 points. Est-ce que c'est un match à 3?
C'est pas complètement terminé, mais enfin, c'est pas loin quand même. Il y a un petit break qui a été fait, la 6 journées de la fin, effectivement, et sur la dynamique, en plus, parce que derrière Lille, ça avance plus beaucoup.
Oui.
Donc, ça stagne même.
Mais c'est vrai que les 5 de derrière, Nice tenu en échec, Lens tenu en échec, Mathieu Rapès, Reims tenu en échec, défaite de Marseille et de Rennes.
Tant mieux pour Lens, même si on en parlera après. Mais c'est vrai que tant mieux surtout pour les Lillois, puisqu'effectivement ce haut de classement paraît un peu pas joué, parce que tout peut arriver encore, notamment les Brestois, à voir s'ils ont un peu souffert face à Metz, ils vont tenir sur la longueur.
Mais ils gagnent
quand même. Donc peut-être à la manière des Lensois la saison dernière, ils vont filer jusqu'au bout comme ça. Mais en tout cas, la semaine, les deux derniers matchs du LOSC ont été quand même décisif pour prendre ce tournant qui est quand même plutôt favorable.
Ouais, on rappelle, victoire face à Lens 2-1, face à Marseille 3-1. Chebdin, elle est impressionnante cette équipe du LOSC. Hein.
Très impressionnante. Moi j'ai eu la chance d'être au match et même de la tribune on sentait une domination. On dit ouais, Marseille on fait un non-match, mais je pense que c'est vraiment Lille en ce moment qui est vraiment au-dessus. Hein. Même face au derby, j'y étais également. On voit une vraie domination et surtout à domicile. Parce que heureusement pour Brest qu'ils font match nul là-bas en faisant un, mais je pense que Lille est armée pour aller jusqu'au bout. Ils joueront une finale contre Monaco.
Oui,
mon avis.
Mais il y a des matchs assez fous hein, lors des prochaines journées. Je regardais le calendrier, par exemple, des Monégasques. Brest-Monaco, et puis Monaco-Lille. Donc, c'est dire que ça va être complexe. Alors, il faut aussi ajouter à Lille, Mathieu Dervaux, la Ligue Europa Conférence, compétition que ne disputent pas forcément Brest et Monaco. Donc, ça, il faut le gérer.
Oui, c'est sûr qu'il faut le gérer. Après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'il y aura pas de match entre l'aller et le retour à Aston Villa. Donc, ça permet quand même d'avoir déjà un temps de récupération. Et puis, on a vu ces dernières semaines que finalement, l'effectif était quand même assez suffisamment fourni pour pouvoir jouer, en l'occurrence, sur les deux tableaux, parce qu'il y a quand même pas mal de blessés. Et finalement, ça a pas fait réduire de volure le LOSC, au contraire, ces dernières semaines.
Adrien Bray, qu'est-ce qui vous impressionne le plus aujourd'hui dans ce que proposent les Lillois? On en parle depuis des semaines. Hein. C'est vrai que ce sujet, on le fait régulièrement. Voilà, la position de Lille qui est vraiment tout en haut de ce tableau de la Ligue 1.
Ouais, moi, ce qui me surprend surtout, c'est comment Paulo Fonseca fait beaucoup de tests depuis le début, depuis son arrivée, qui n'ont pas forcément toujours fonctionné. Et là, aujourd'hui, tout ce qu'il fait, on a l'impression que ça marche. Ça réussit, et c'est pour ça que moi, je me fais aucun doute sur l'idée que Lille soit sur le podium de la Ligue 1. Pour moi, déjà, la course à 4, les 4 premiers, on les a, à savoir quel ordre, mais je pense que Lille, sans aucun problème, sera sur le podium à l'issue de la saison. Hein.
Alors, je redonne le programme de Lille en Ligue 1, Mathieu Rapèze. Lille-Strasbourg, Monaco-Lille, donc le 21, le 24, après les deux matchs face à Aston Villa, puis un déplacement à Rennes, la réception de Lyon, déplacement à Nantes et réception de Nice.
C'est pas simple quand même. Non. Mais à la limite, Lille a son destin en main, puisque s'ils remportent ou s'ils évitent les défaites face à ses concurrents directs, ça sentira bon. Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas forcément la manière de jouer des Lillois, qui, pour moi, n'est pas un rouleau compresseur forcément super beau à voir. C'est la manière dont ils font déjouer les autres, en fait. On a l'impression qu'il n'y a aucune solution face à cette équipe. On l'a vu, Lens offensivement n'a rien pu produire, donc il y a une force de frappe assez impressionnante. Et puis après, il y a du réalisme quand même dans devant le but. Bon, là, ce week-end, il y a quand même eu un pénalty assez tardif. Enfin, tout n'est pas parfait.
Il y a 0-0 à la pause.
Voilà,
hein, face à
tout n'est pas parfait, mais Lille, quand on joue contre Lille, on a l'impression qu'on ne peut pas gagner.
Force tranquille, Sabine.
On a l'impression que c'est une force tranquille, mais c'est l'intensité qu'ils mettent. L'intensité, elle est incroyable, que ça soit offensivement ou défensivement. Aujourd'hui, la force de Lille, c'est là. C'est que duel offensif, ils gagnent, les duels défensifs, ils les gagnent. Et surtout, quand on peut voir, c'est qu'ils sont sur deux. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune pression, même à 0-0. Même dans le stade, on sentait une sérénité. Et je pense que le pénalty vient tardivement, mais contre Lens aussi, hein. On n'a pas l'impression que c'est une grosse domination. Mais au final, la différence, elle se fait avec le temps. Et je pense que Fonseca a aussi ce qu'il voulait.
Sandrine ?
Oui, tu parles de Paulo Fonseca. Effectivement, il est pour beaucoup, moi je trouve, aussi dans la réussite du moment, parce qu'il fait des choix qui sont payants, des choix tactiques. Il y a eu son passage au 4-3-3, exact. Il y a sa défense à 5 contre Lens qui a été parfaite, qui a été bonne aussi d'ailleurs pour le Havre contre Lens, soit dit en passant. Il y a la titularisation de Rémi Cabella cette fois-ci, alors que Gudmundsson avait été bon dans le derby. Donc c'est aussi, je trouve, c'est aussi sa réussite à lui dans la gestion tactique, la mise en place tactique et la gestion des hommes aussi.
Oui, puis il est suivi par les joueurs, Mathieu Dervaux. On les a entendus régulièrement. Hein. J'entends encore sur notre antenne Nabine Bentaleb dire en gros, voilà, je vais à l'entraînement avec le sourire parce que je sais que je vais me régaler et je sais que je vais apprendre des choses.
Ouais, bah ces derniers temps, les éloges pleuvent hein, quand même sur Paulo Fonseca de la part de ses joueurs. Mais je rejoins Sandrine et même dans l'état d'esprit, ils sont menés 2-0 contre Rennes à domicile, ça peut casser une dynamique et ils vont quand même chercher un match nul qui est mérité au final, mais dans les dernières minutes, à l'arraché. Donc il y a différents styles, mais ils arrivent à pas perdre. Ils sortent quand même d'une série où il y a eu Rennes, il y a eu Brest, il y a eu Lens, Marseille, quatre équipes de haut de tableau, et ils sortent avec 8 points, 0 défaite, et limite une sensation de plus le temps va et plus ça semble fort et solide pour le LOSC. Quoi.
Ouais, donc, c'est assez fort quand même. C'est un peu fort avec l'effort, Adrien Bray, cette saison. Hein. C'est un peu le Lens de la saison dernière, finalement, ce LOSC.
Non, bah, c'est fort un peu contre tout le monde, à part quelques matchs où ils ont décidé de ne pas jouer parce que, je sais pas, c'était une question de prime ou quoi, mais il y a des matchs comme ça où ils ne sont pas motivés. Ouais. Là, on a l'impression qu'ils ont enfin une carotte assez grande au bout, ouais. C'est-à-dire quand même la Ligue des Champions.
Là, ils lâcheront plus. Bah, il n'y aura plus de non-match normalement.
Si y a des non-matchs comme face à Strasbourg fin décembre, là ce sera une vraie erreur de leur part, mais j'ai l'impression que les petits mots que le staff de Paulo Fonseca donne à ses joueurs avant les matchs, comme Rémi Cabella vous disait vendredi, ça a l'air de fonctionner en tout cas, et je vois vraiment pas quel grain de sable va pouvoir arriver. On le rappelle quand même, un de leurs meilleurs joueurs de la saison, André Gomes, est absent en ce moment. On le remarque pas.
Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, Sandrine ? Par rapport à ça, par rapport à cette notion de fort avec l'effort et ces non-matchs qui n'existent plus en ce moment.
Oui, effectivement. Et puis en plus, là, il y a un niveau de Coupe d'Europe qui devient très très intéressant en plus. Donc il n'est pas question de se relâcher non plus. Non, et puis ils sont aussi forts à domicile aussi, où ils sont intraitables malgré tout, parce que je crois qu'il y a une défaite cette saison depuis plus d'un an et demi seulement.
C'était Nice, je crois, précédente l'année dernière, en début de saison l'année dernière.
Pour Paulo Fonseca,
Donc il y a une vraie force aussi à domicile et contre tout le monde, effectivement, pas que avec les forts.
Ouais, c'est solide, quoi. Je dirais pas que c'est le plus beau jeu de Ligue 1 ni d'Europe, où
c'est Lens le plus beau jeu.
On n'a pas forcément de grandes envolées, mais je pense que les entraîneurs adverses, quand ils préparent un match contre le LOSC, ils ont pas de solution en fait, et même si ça met un peu de temps parfois à se construire, ça finit par tourner en faveur du LOSC, et à domicile c'est assez incroyable.
La vraie interrogation, ça va être Fonseca Emery, en fait c'est le prochain gros match qui va nous intéresser.
Ah bah ça c'est après 18h30 ça.
Ah pardon, j'ai pas regardé le
mais allez-y,
programme.
Vous n'avez pas lu le programme. Ça me rassure, venant de votre part.
Non, mais effectivement, j'ai l'impression que Fonseca réussit tout là, à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il a compris comment fonctionnait la Ligue 1, comment il fallait gagner. Le vrai révélateur pour lui, pour savoir vraiment s'il est très très haut comme coach actuellement, ce sera face à Unai Emery et en Europa League conférence.
Allez, on parle du plus beau jeu de Ligue 1, celui de Lens. C'est parti, après le bonheur lillois, la frustration lensoise.
Tribune Nord. Toute l'actualité des 100 et or, en direct sur France Bleu Nord, Sylvain Charlet.
Match nul, un partout face au Havre, et on y était avec Bastien Ducrot samedi soir.
Allez, Sabier, son pied droit, et c'est dedans. Contre-pied parfait, et égalisation de Sabi.
Ouais, non, je crois que la Ligue des Champions, il faut être assez lucide, hein, à la fois sur ce qu'on est capable de faire, sur ce que les équipes, les quatre premières sont capables de faire, et font mieux que nous.
On est dans une période difficile, mais le plus important, ça va être de ne pas lâcher, parce qu'on est quand même le 8e budget, on ne va pas faire des exploits toutes les saisons, donc on est à notre place.
Bon, je sais que ça plaît à Adrien Bray. Voilà, ils sont 6e, 8e budget de Ligue 1. Bon, ils sont à leur place. Il y a une forme de fatalisme. Alors, fatalisme ou lucidité de la part des Lensois?
Ça m'énerve la réflexion autour du budget. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. S'ils n'ont pas battu le Havre, c'est parce qu'ils ont un plus gros budget quand même. Ça n'a pas de. Je comprends pas cette vérité uniquement budgétaire. Mais au-delà de ça, je trouve que. Enfin, moi, je sais qu'autour de la table, là, on est assez sceptique, et je trouve ça peut-être un peu dur pour les Lensois, parce qu'au final, ils sont juste réalistes. Leur niveau, c'est pas la Ligue des Champions. Ils sont à peu près à leur place. Ça va se battre avec Rennes ou avec Marseille. Et en fait, ils sont tout énorme. Pour moi, tout est normal dans ce qui se passe actuellement à Lens.
Chebdin Insi, pour moi, c'est une forme logique un peu. Donc, sur leur retour en Ligue 1 déjà, où ils sont arrivés petit à petit. Là, l'année dernière, ils ont fait un vrai parcours, et justement, on n'entendait pas parler de budget, on n'entendait parler de rien.
Mais bien sûr.
Cette année, peut-être plus de réalité pour eux, et le réalisme aussi qui est moins là pour eux. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer avec Lens, c'est que le jeu n'est plus le même. L'intensité n'est plus le même, et même les sorties d'après-match. L'année dernière, ce genre de discours, ils n'existaient pas.
Mais exactement, c'est ça qui est surprenant, Sandrine, vous qui suivez également ce Racing Club de Lens, match après match. C'est comme si ça avait abandonné en fait là. On va se contenter de ça en fait.
Oui, c'est assez curieux, et j'avoue que j'ai un peu de mal à décrypter vraiment le discours de Francaise et de ses joueurs qui sont des joueurs cadres qui sont dans la même ligne. Mais ça fait quelques jours déjà que Francaise préparait ce discours. Enfin, il y a une espèce de remise en perspective qui était déjà après le derby. Remettre le club dans sa progression, dans sa logique de club qui est remonté il y a pas si longtemps. C'était miraculeux. Enfin, ouais, au moins miraculeux, c'était les mots de Florian Sotoka. C'était exceptionnel la saison dernière. Donc il y a une espèce de remise en perspective. Alors je la comprends. Est-ce que c'est un discours raisonnable pour redonner un objectif réaliste à ces joueurs, pour se faire une raison sur le fait que la C1, effectivement, ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même, malgré tout, Lens est à 6 points de la 4e place. Il y a une forme de logique, surtout vu, effectivement, ce que Lens produit comme jeu en ce moment. Je suis un peu perplexe face à ces discours. J'ai du mal à donner un sens unique.
Ouais, j'ose espérer que dans le vestiaire, le discours n'est pas le même, Mathieu Dervaux. Et je suis convaincu que le discours n'est pas le même. Là, c'est de la com.
Ah, ouais. Totalement d'accord. Pour moi, c'est pour les gens à l'extérieur. Et je pense que Francaise, plusieurs fois, et certains joueurs en conf, le rappellent, histoire de préciser que l'exception était l'année dernière. et pas cette année. Et que la place de Lens, si l'année passée, il n'y a pas cette saison incroyable où ils rivalisent quasi avec le PSG jusqu'au bout, tout le monde aujourd'hui dirait Lens, sixième, une saison dans les standards, conforme, très bien. Et qu'au final, il y a une forme de logique. L'effectif, ils ont perdu Fofana, Openda. Ils n'ont pas une profondeur incroyable.
Les remplaçants sont jeunes et inexpérimentés.
Exactement.
Dieu fait, ouais.
Il y a quand même beaucoup de... Ils ont découvert la Ligue des Champions, l'intensité. Il y a quand même beaucoup de nouveaux éléments. Même si, je rappelle, selon le théorème à Triembré, c'est quand même une excellente nouvelle, puisque plus vous perdez, plus vous arrivez proche de la victoire. Donc
c'est l'histoire
quand même...
des séries, hein, ça, tout simplement.
C'est quand même formidable, finalement, plus pour ça va, plus on approche qui se rapproche de la prochaine victoire.
Monsieur Bré, vous voulez réagir sur Diouf et Wayi avant de donner la parole à Mathieu Dervaux?
Non, mais ils sont pas tous jeunes, vos bandes remplaçants. Pourquoi il faut incriminer que les jeunes? Fulgini, Thomasson sont
des fantômes. Les remplaçants d'Openda et Fofana.
Possible ces deux, parce que il y en a qui deviennent remplaçants de remplaçants parce qu'ils sont pas bons. Eux aussi, ils étaient joueurs et titulaires dans des clubs moyens de Ligue 1. Ils arrivent à Lens et on se rend compte que finalement la marche, elle paraissait accessible au début et qu'aujourd'hui, ce sont devenus des remplaçants de remplaçants. Fulgini et Thomasson, par exemple.
Ouais, exactement. Mathieu Rapèze.
Non, mais je entends ce que vous dites sur le côté com du discours de Francaise, mais on peut pas lui reprocher d'être juste cohérent.
Bien sûr.
Et il dit vrai, en fait, je pense. Et là, je parle de cohérence, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il nous dit qu'ils sont en sur-régime. Sur-régime s'arrête. Ils sont un peu au ralenti. La saison est loin d'être finie parce qu'on aura peut-être pas le même discours d'ici quelques semaines. Là où je comprends pas, moi, c'est le niveau technique. Je comprends pas comment quelques matchs il peut disparaître comme ça. Les passes ratées, aucune cohérence dans le jeu. Ça, j'ai du mal à savoir si c'est mental, physique ou tout simplement les adversaires qui lisent mieux le jeu.
C'est vrai que Sandrine le disait, Le Havre par exemple a copié-collé le système du LOSC quasiment défensivement.
Ah bah oui, et puis ils ont complètement bloqué les Lensois effectivement, mais il y a des défaillances je trouve individuelles et collectives dans cette équipe dont on a l'impression qu'elle est, alors je vais pas dire au bout du rouleau parce que ce serait trop tôt pour le dire, mais donc au moins elle est un petit peu usée et individuellement, il y a des joueurs qui n'y sont pas. On a Salis Abdoul Samed qui est, je suis désolée, à la rue. Ah oui. On a un Medina, Facundo Medina, depuis au moins trois matchs, qui n'est plus le Facundo Medina rayonnant du début de saison.
Qui cassait les lignes, notamment.
Voilà, qui cassait les lignes. Un Frankowski qui est bien plus à l'aise à droite qu'à gauche, on l'a encore vu samedi. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, des joueurs qui sont moins bons ces temps-ci. Et collectivement, ça se ressent aussi. On a l'impression d'un ressort un petit peu cassé.
Exact.
C'est pour moi, c'est le jeu, effectivement, qui est en question, ce que disait Chebdin.
Qu'est-ce qu'on fait alors pour relancer les joueurs?
Alors, c'est là où je peux faire la différence entre Francaise et Fonseca cette année. C'est la profondeur. Donc, pareil.
Profondeur de banc. Les solutions sur le banc.
Fonseca, au départ, il n'a pas une grosse profondeur. Il a créé sa profondeur. Parce qu'il y a Yazici, l'année dernière, on n'y comptait pas dessus. Sur les premiers mois et le début de l'année, c'est lui qui jouait. On a même eu au début d'année l'attaquant David qui jouait pas du tout. On se posait tous la question, est-ce qu'il restera? Donc au final, il a été chercher sa profondeur, il l'a créé. Je pense que Lens l'avait bien fait avec El Naoui, parce que moi, on peut me dire que Abdou Samed est pas bon, mais je pense que El Naoui cette année, il lui a pris sa place, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est plus un aspect mental pour moi. Quand on fait une grosse saison, confirmer, c'est toujours plus dur. Et là, la Ligue des Champions leur a pris beaucoup d'énergie parce que indirectement, les joueurs, quand ils ont démarré, ils espéraient un 8e. On va pas se mentir, surtout après une première victoire contre Arsenal. Derrière, je pense que ça a touché et derrière, là, quand ils ont été perdus à Eindhoven, je pense que tout a commencé à se dégrader au fur et à mesure. Et sur l'aspect mental, on le ressent. En tout cas, l'année dernière, ils allaient chercher cette énergie. Cette année, ils l'ont plus.
Adrien?
Et certains ont peut-être envie d'aller jouer la Ligue des Champions encore la saison prochaine. Et si on voit qu'avec Lens, c'est compliqué aujourd'hui, peut-être que certains vont aussi demander des billets de sortie. Qu'il n'y aura pas un billet de sortie non plus pour tout le monde. Donc, bien sûr, aussi.
Ils ne se montrent pas trop bien, quand même.
C'est pour se montrer pour les autres clubs.
Il y a eu Arsenal, il y a eu tout.
Ça suffit. Il y a longtemps, ça.
Même financièrement. Ils vont être obligés aussi de libérer certains joueurs pour l'aspect économique.
Mathieu Dervaux.
Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas vu le match contre Le Havre, hein, pour le coup, les recruteurs, parce que sinon, la Ligue des Champions, ils vont la regarder à la télé avec RCL.
Après, il y a encore de l'espoir.
Souvenez-vous du début de saison. Ils ont quand même eu la ressource, ils étaient bons derniers, la ressource de revenir avec le même effectif. Donc, c'est pas Lyon qui a recruté à tout va et qui s'est réveillé. Donc, s'il y a le même discours, pourquoi pas.
Sandrine, pour conclure.
Ouais, juste, moi je dirais que le match de vendredi à Metz, il est déterminant. On va voir comment ils réagissent moralement, mentalement, quelle énergie ils arrivent à mettre individuellement, collectivement. Si tactiquement il y a des adaptations, peut-être des choses comme ça. S'il y a une victoire à Metz, derrière, ça peut réenclencher. Le calendrier reste favorable. Cette équipe, elle a quand même pas tout perdu d'un coup. En revanche, s'il y a un résultat négatif à Metz, qui a quand même passé 3 buts à Brest ce week-end, soit dit en passant, là, ça risque d'être plus compliqué. Mais ce match-là, pour moi, il est charnière.
Chebdin, puis Mathieu. 20 secondes chacun.
Moi, tout à l'heure, on en discutait, hein, mais je pense que le lance de la dernière, c'est Brest, au final.
Complètement.
Deuxième aujourd'hui.
Et quand on voit le match de ce week-end, la première mi-temps de Brest, elle était incroyable. Et je pense que là, on pense tous que Brest allait lâcher. Au final, c'est eux qui sont restés en haut. Et je pense que ça aussi, ça met un coup à Lens.
Mathieu ?
Juste attention au public aussi, aux supporters, de ne pas tout jeter. Et j'ai peur qu'il y ait un petit basculement de ce point de vue-là. Et ça serait un peu dommage.
Mais si Lens termine 8e, c'est comme le budget du club. Hein, n'est-ce pas, Adrien Bray ? 8e budget. On aura alors la question de sélection. C'est parti. La question pour remporter le ballon Kipsta Décathlon d'une valeur de 80 euros. Attention, vous appelez le standard 03 20 55 89 89 avec la bonne réponse. Joseph vous attend. Où aura lieu la finale de la Coupe de France le 25 mai ? À Paris, à Lille ou à Marseille ? Où aura lieu la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain ? Coupe de France de football ? À Paris, à Lille, à Marseille. 03 20 55 89 89, Joseph vous attend.
Pourquoi MAF Pro ?
Parce que du 2 avril au 4 mai, il y a 200 euros offerts sur votre nouveau contrat multirisque pro. La MAF, je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur maf.fr.
Là, vous entendez ? Et les notes printanières de la musique Le Roi Merlin se mêlent au chant des oiseaux dans votre jardin. Et c'est beau ! Mais là, quand je dis que le showroom Natérial, c'est 1000 mètres carrés de pergolas, de salons de jardin et de barbecue, là, vous vous dites, eh, oh, oh, un peu moins fort, les oiseaux. Notez bien, le showroom Natérial, c'est à Lille-et-Lem et c'est ouvert tous les jours.
Le Roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
18h30, j'entends ricaner derrière, ils sont en forme, hein. Tribune Nord, l'équipe ce soir. On va retrouver, évidemment, c'est Serge à la cellule de vigilance routière, Serge à la préfecture, on va faire la synthèse à 18h30, Serge.
Oui, et bien, je vous signale la fin de l'accident de l'autoroute A16 que je vous avais signalé tout à l'heure. Ouais. C'était à hauteur de Dunkerque, dans le sens Belgique-France. Reste un petit et très très léger bouchon sur le secteur de Capelle-Lagrande, mais rien de bien grave. Sur la métropole lilloise où on avait les plus gros des bouchons, mais écoutez, on a encore quelques perturbations sur la sortie de Lille, sur les 5 voies de l'autoroute 1 jusqu'à la courbe de Ronchin, au-delà en direction de Paris, la circulation reste chargée jusqu'à Templemar et puis après ça circule plutôt bien. Par contre, ça se répercute sur la partie boulevard périphérique sud de l'autoroute A25, à peu près 2 km, également sur 4 km sur la voie rapide urbaine dans le sens Roubaix vers Lille. Des difficultés encore sur le tronc commun de l'autoroute A22 dans le sens tourné vers Lille, en particulier si vous prenez la direction de Paris. La nationale 227 pour la traversée de Villeneuve-d'Ascq est chargée sur 3 km. Juste après la courbe de Babylone, vous êtes dans les bouchons et puis après ça repart tout doucement. Des difficultés encore sur l'autoroute A22 dans les deux sens de circulation. Secteur de Marc-en-Barœul, Ouascal, en direction donc de Lille et en direction de Gand et en direction de Lille, secteur de Tourcoing. On a une petite densité qui va vite se résorber. La nationale 41 toujours chargée, secteur de Fournan-Wep et Illy, un peu plus que tout à l'heure malgré tout, mais sans grandes conséquences globalement. Hein. Petite densité encore à signaler sur l'autoroute A21 en direction de Aix-Noulette, secteur de Los Angeles. Et puis ma foi, partout ailleurs, ça reste très correct. Hein, autoroute A23, le Valenciennois, la Rajoie très 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 bien, la 26 et le reste de l'autoroute A16 sans difficulté de circulation globale.
Merci beaucoup Serge pour le point complet. À demain.
À demain avec plaisir.
Avec plaisir. À demain Serge. Deuxième partie de Tribune Nord, 18h32.
France Bleu Nord, 100% foot. Tribune Nord sur France Bleu Nord.
On continue notre débrief avec nos experts du soir. Adrien Bray pour France Bleu Nord, Mathieu Rapès pour France 3, Mathieu Dervaux pour l'Indicateur des Flandres, Cheb Dininsi, notre coach de Lille Délivrance en division de district, et Sandrine Arécier de la Voie du Nord. Vous en êtes où d'ailleurs, Cheb Din, dans la saison?
On est toujours leader.
Ok, donc monter, c'est quoi? C'est deuxième division de district?
Ouais, on va monter. Si on monte, c'est première division.
Ok. Il reste combien de matchs?
Il reste 4 matchs.
Vous êtes chaud bouillant là en fait.
7 points d'avance.
Oh, c'est bon, c'est fait.
Presque.
C'est 3 points la victoire.
Combien le budget par rapport au
concours? Oui.
On a notre place.
Et l'objectif, c'est de remonter.
C'est ça, on vient de très loin, nous. Hein, donc, ouais. C'est un nouveau projet qui a démarré il y a 2 ans.
Ça veut dire quoi, très loin?
On vient de D4, D3, là, D2. Oui. Et l'objectif, c'est d'aller en D1 pour arriver vite en régional.
Objectif coach. Quel âge, Sebdine, vous?
J'ai 32 ans.
Ah, voilà, encore un coach jeune, encore un coach qui réussit à la tête d'une équipe de la région. Bon, dans cette deuxième demi-heure, on va parler du sourire de Rémi Cabella, qui a mystifié son ancien club, l'Olympique de Marseille. Vous allez l'écouter. Il a galéré ces derniers temps et il s'est confié à notre micro en conférence de presse en zone mixte après le match de vendredi. On va revenir également sur la mise au point la semaine dernière d'Arnaud Pouille au sujet notamment de la cellule de recrutement, au sujet également de l'actionnariat du club. Et dans le buzz des réseaux, on va se projeter bien entendu sur le match de Ligue Europa Conférence entre Aston Villa et Lille. Match aller à Birmingham jeudi, à vivre sur Bleu Nord à partir de 20h, et match retour la semaine prochaine, coup d'envoi 18h45.
Tribune Nord, le joueur de la semaine.
Et c'est Rémi Cabella. Il a marqué, Lille a gagné, donc il est venu parler aux médias. Mais c'est quand même un des joueurs qui vient régulièrement parler aux médias. On peut lui accorder quand même. Rémi Cabella sur France Bleu Nord, vendredi soir, après son but qui lui a fait penser à un joueur, à un des meilleurs joueurs du monde.
Ça faisait au moins, c'est vrai, depuis l'année 2024 que j'ai pas pu travailler devant le but parce que je pouvais pas. Et hier, j'ai voulu travailler. Sur 15 frappes, j'en ai loupé 15. Mais j'ai dit à Jonah David, j'ai dit, écoute, attends demain. C'est demain le plus important et tu verras que demain, ça va être réglé. Et j'en ai eu une et voilà, je ne me suis pas posé de questions. C'est vrai que sur le moment, j'ai pensé à Mbappé. Parce que voilà, c'est quelqu'un en finition pour moi qui est l'un des meilleurs du monde. Et je rate beaucoup, beaucoup sa finition. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça dans mon geste. J'ai pas eu besoin de dribbler le joueur. Des fois, il n'y a pas besoin. Quand je vois qu'il est devant le gardien, je me dis, le gardien, il est masqué, il voit peut-être pas le ballon. Et j'ai enroulé comme il fait. Parfois, ça réussit. Et aujourd'hui, ça a réussi. Donc je suis content. Je suis là, je suis un compétiteur. Moi, je veux jouer. Même s'il me met sur le banc, je ne rentre pas. Je sais que je vais me battre à l'entraînement pour jouer. Et c'est ma nature. Je suis comme ça. On a su trouver la bonne solution pour me gérer. C'est vrai que j'ai plus 20 ans. Donc voilà, faut gérer. On essaie de trouver les bons moyens et c'est ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre et je me bats sur le terrain et je me donne à 1000%.
Rafraîchissant, Mathieu Dervaux, ce Rémi Cabella.
Toujours au micro, je trouve Rémi Cabella, toujours rafraîchissant. Mais oui, je trouve que c'est une des réussites de Fonseca. Il nous le ressort entre guillemets du placard, presque là, sorti du chapeau de nulle part. Et le choix est payant. Et comme j'ai envie de dire, quasiment tous ses choix en ce moment à Paulo Fonseca depuis 3 semaines, il décide de faire quelque chose. Et ça fonctionne. Et Cabella en est la parfaite illustration. Et pour le coup, en plus, il arrive avec de la fraîcheur mentale, de la fraîcheur physique dans les échéances importantes. Donc, jusque-là, rien à dire, en tout cas, de la part de la gestion de Fonseca.
Il n'avait pas débuté en championnat depuis la mi-février lors de cette victoire face au Havre. Dininsi, ça vous inspire quoi d'entendre le sourire de Rémi Cabella?
Content de le revoir avec le sourire, déjà. Mais moi, j'étais très surpris. Moi, j'étais le premier surpris quand j'ai vu la composition. Le match d'avant Lille-Lens, il rentre 10 minutes. Sur les 10 minutes, j'avais l'impression qu'il était épuisé, il était complètement cuit, il faisait même pas les retours défensifs sur les dernières actions. Et là, je le vois titulaire et honnêtement, hein, dès les premiers ballons touchés, on sentait que c'était son match. Il sort au bon moment, il sort sur une bonne presta et le public l'a vite compris, hein, et l'a remercié. Et je pense qu'il fait le match qu'il fallait. Mais vraiment, la semaine d'avant, c'est tout l'inverse. Jamais je l'aurais mis, moi, personnellement.
Adrien Bray?
Non, c'est intéressant parce qu'en plus, ce qu'il dit à la fin, alors il parle d'Mbappé peut-être, mais surtout à la fin, il est en train d'expliquer que si Fonseca l'a mis sur le banc pendant un moment, il y avait des raisons, que lui, il l'accepte et qu'il comprend que son rôle à lui, il devient secondaire. Et là, je trouve que Fonseca gagne vraiment des points, Cabella rentre dans le moule et accepte en étant un des cadors quand même du vestiaire. On le rappelle, dans le vestiaire, il est quand même à côté du capitaine Benjamin André. Donc, il a son importance,
ça
par son expérience, mais il accepte de dire, écoutez, moi, c'est vrai que j'ai plus 20 ans et ça me va très bien comme ça, on va gagner comme ça, moi je suis un second couteau.
Même si on l'a vu quand même, moi je me rappelle à Graz, hein, en Coupe d'Europe, il était très frustré et le président Létang l'avait pris par l'épaule et avait discuté avec lui, Mathieu Rapez.
Ouais, je pense que c'est quelqu'un d'assez émotif, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et moi je retiens aussi la joie des supporters, mais celle de ses coéquipiers, quand il marque, on voit qu'il y a quelque chose. Et parfois dans les vestiaires, on sait que c'est compliqué, surtout pour ceux qui ne jouent pas. Et là, on n'est pas à Luchin tous les jours. Peut-être qu'il y a eu des tensions, mais en tout cas, visiblement, il a a priori accepté son sort. Et c'est malin de la part du coach de le ressortir au bon moment. Et je pense pas qu'il gagne sa place de titulaire jusqu'à la fin de saison pour autant, mais il sera un des joueurs clés qui peut être décisif. Et maintenant qu'il a marqué, alors moi je croyais qu'on jouait quand on s'entraînait, mais visiblement on peut mal s'entraîner et bien jouer. C'est pas mal.
Ça peut arriver. Sandrine Arécy, c'est vrai qu'il n'était pas sur le terrain lors du derby. Chabine le rappelait.
Il avait même pas joué à Brest. Du coup, il n'était pas entré en jeu, je crois. Mais il a été pas mal blessé quand même, Rémi Cabella. Et à 34 ans, je crois que c'est 34
trois déchirures.
Ça fait beaucoup, il faut en revenir derrière, c'est pas simple malgré la volonté, malgré tout ce qu'on veut, et ça laisse le temps en plus à la concurrence qui est accessoirement plus jeune de s'imposer. Donc
c'est vrai qu'il y a du monde sur les postes offensifs derrière David. Vous me complétez si j'ai une bêtise, si j'oublie quelqu'un. Gomez, en attendant qu'il revienne, Zegrova, Haraldsson, il y a aussi Cavalero, il y a Yazidche,
Ounas
aussi. Il y a énormément de monde. Et Ounas, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Ah, ça fait sourire Adrien Bray, les 9 minutes d'Adam Ounas lors du match face au Racing Club de Lens. Mathieu Dervaux.
C'est vrai qu'Adam Ounas a une spécificité quand même assez... il agit dans un... très court laps de temps, Adam Ounas, ces derniers temps.
Le pauvre.
Le pauvre, évidemment.
La poisse.
Mais c'est vrai que non, et d'ailleurs, je trouve que c'est révélateur, Yazidche, qui était, on en parlait tout à l'heure avec Chebdin, le sauveur en début de saison quand David mettait pas un pion. Et puis, finalement, Yazidche, il est plus que dans la rotation et assez loin dans la rotation ces derniers temps.
Il a disparu, là, quasiment.
Alors que
Yazidche.
C'était, limite, l'homme fort des trois premiers mois du LOSC, où on se disait, c'est une alternative à David, il n'y a pas de deuxième attaquant, Yazidche peut faire office d'eux. Et puis finalement, c'est plus David, c'est pas grave, c'est un autre qui prend le relais et on nous ressort Cabella. Et quand c'était pas Cabella, c'était Gomez, c'est Zegrova sur toute la saison. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour briller au final.
Mais faut pouvoir la manager, cette concurrence, chef d'Inici.
Je pense que les résultats parlent pour lui.
Oui, c'est plus facile quand ça gagne.
Ouais. C'est beaucoup plus facile. Après, il a fait avec un peu tout le monde cette année. Gudjonsson, derrière avec Boadji. On rappelle, à un moment donné, c'est Boadji qui est rentré en Coupe d'Europe, qui était souvent présent, là un peu moins en ce moment.
Alex Diakité en défense centrale.
Diakité qui était là. Et il a Santos au départ qui jouait, qui ressentait, qui était présent, qui était pas là le match d'après. Donc je pense qu'il le gère vraiment bien son groupe. Et je pense que les résultats donnent raison aussi. Et je pense que ça fait du bien pour tout le monde. Comme il a dit, on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Les vestiaires, on sait très bien comment c'est. Quand c'est fermé la porte, tout reste et tout peut sortir. Et je pense que justement, Lille a cette force-là cette année. C'est qu'on sent une vraie équipe.
Ouais, avec des leaders qui portent cette formation. Je pense notamment à Benjamin André et Nabil Bentaleb. Et peut-être même pour Lucas Chevalier. Sandrine Arécier.
Oui, et puis Jonathan David par tous les buts qu'il marque aussi,
bien sûr.
Parce que depuis fin novembre, on l'arrête plus trop, le Jonathan David. Il est à 14 buts en Ligue 1 depuis fin novembre, après sa petite disette là.
Incroyable.
18 au total, toutes compétitions confondues, tout ça depuis le match contre Lyon, je crois, fin novembre. Et il marque quasiment à chaque match. Parfois, il marque plusieurs buts. Enfin, il provoque le penalty, il le marque. Il me semble que c'est lui aussi qui est passeur décisif pour Cabella, je me trompe peut-être.
Il est dans l'action,
c'est aussi sans qu'on affirme que ce soit un cadre effectivement comme un André.
Non, mais c'est un cadre.
Mais il est dans ce qu'il fait, c'est
dans
aussi
le jeu.
C'est fort.
C'est un leader de jeu.
Complètement.
Ouais. Voilà. Ouais. Allez, on parle du Racing Club de Lens avec la phrase de la semaine.
Tribune Nord, la phrase de la semaine.
Et c'était à deux jours de Lens-Le Havre. Arnaud Pouille, le directeur général du club, est venu faire une mise au point. Il a parlé, mais il n'a pas autorisé les questions. Écoutez Arnaud Pouille.
Donc ce que je peux vous confirmer, c'est que la période d'essai de Mike Modeux a été rompue ce week-end. Frédéric et Romain sont en charge de la coordination sportive du club. Ils savent pertinemment les attentes du club sur les réalisations à mener, sur le calendrier, et ils travaillent sur les sujets structurants du club. Ils sont en poste, voilà. L'actionnariat du club. Oui, il y a des discussions concrètes et à un niveau quand même relativement avancé, mais il adviendra à Joseph Gourlian, sa qualité de propriétaire et président du club, de communiquer à leur H.
Bon, Sandrine Arécy, vous y étiez. Je l'ai simplement écouté avec 24 heures de retard. Je l'ai trouvé tendu. Je l'ai trouvé un peu, pas la voix tremblotante, mais...
Tendue, je sais pas, mais en tout cas, c'est très rare qu'Arnaud Pouille s'invite comme ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis Lens, je l'avais pas vu venir comme ça sur un début de compte de presse où il était pas officiellement prévu. Donc, je pense qu'il a senti le besoin aussi d'une communication du club. Donc, c'est peut-être ça qui explique le côté un petit peu tendu. Mais sinon, non, ce qui était... plus ou moins surprenant, c'est le fait de pas ouvrir la question. Enfin, c'était pas.
Oui.
Alors pour les questions, on pouvait les poser, mais oui, pas
à l'attaché de presse du club après.
Bon, moi j'en ai posé.
Et pas de réponse. Oui.
Forcément.
Oui, les sujets sont touchés.
Ah bah pourquoi Mike Maude est parti ? Effectivement, il n'a pas de réponse, mais ça, pourquoi pas ? Alors tendu.
En fait, on n'apprend pas grand chose au final dans sa conf.
Disons qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient sorties, des articles, plus des tweets, des choses comme ça qui étaient sorties pendant le week-end. Ça partait un petit peu dans tous les sens, notamment, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que... il y a des sujets qui, d'après lui, ne sont pas liés, qui ont été amalgamés. Et je pense qu'il voulait surtout faire une mise au point. Et pour moi, c'était aussi une façon, alors ça n'a pas forcément fonctionné, mais de diminuer un peu cette fin de saison, de dire maintenant, il n'y a plus que le terrain. On règle, je vous parle de ces sujets-là, je vous donne la position du club, et puis on y va.
Et on passe à autre chose, Mathieu Rapèze.
Oui, puis ça évite Franquesse d'avoir affronté ces questions-là.
Exactement. Dans, surtout qu'il n'est plus manager général, voilà. En plus, donc c'était logique que ce soit
Arnaud Pouille.
On lui a posé d'ailleurs quand même une ou deux questions derrière. Mais
voyez avec Arnaud Pouille, avec l'attaché de presse, enfin débrouillez-vous.
Non, mais j'ai hâte d'être plus vieux de 6 mois, 1 an ou 2 ans, et qu'on aura le coulisse de ce week-end, parce que j'ai pas d'infos, mais c'était peut-être rocambolesque d'après ce qu'on a pu voir.
Par rapport
mais...
à Mike Maude, le recruteur qui est venu et qui finalement est reparti.
Ouais, un jeune homme de 25 ans.
A priori, il a gonflé le CV.
Voilà. Donc,
c'est mais ça bon, l'idée, Sandrine.
PADC, ça
ouais,
sert à
gonflé. Enfin, en tout cas, il y avait un doute. En tout cas, parce que moi, j'ai pas de certitude. J'ai pas vu son CV. Il y avait un doute sur ses références, effectivement, et ça a suscité quelques grognements au sein de la cellule. De recrutement, sachant que Mike Maude n'était pas un choix de Frédéric Hébert.
C'était
un choix d'Arnaud Pouille qu'il avait croisé avec Joseph Gourlian à Séville, justement, où il a été recruteur pendant quelques mois pour les jeunes. Voilà, donc il y avait un petit peu tout ça autour, et je pense peut-être une lutte d'influence des uns et des autres. Mais Mike Maude, il venait pas pour être directeur sportif, je le précise, il venait pas prendre la place de Fred Hébert, il venait pour la cellule.
Ouais.
C'était son N-1, j'allais dire.
Mais j'ai l'impression qu'on commence à regretter ou peut-être recruter à nouveau Florent Ghisolfi, Adrien Bray. Parce qu'on a l'impression que ça fait des mois qu'au niveau de la cellule de recrutement, au niveau de la philosophie, de la politique mise en place, que c'est pas brouillon, mais qu'il y a quand même régulièrement des fausses notes.
Oui, effectivement. Après, il y en a eu aussi avec Ghisolfi. On en a pas parlé parce qu'on a regardé les réussites. Ça dépend où vous regardez. Si vous regardez du mauvais côté, vous allez voir ce qui est mauvais. Puis si vous regardez du bon, vous allez voir ce qui est positif.
Les réussites des derniers mois.
D'expérience, je peux vous dire que
votre CV, vous étiez où à Radio-Canada, c'est ça? Pendant 15 ans, c'est ça?
Voilà. J'ai vu grandir Jonathan David.
Alors, les réussites aujourd'hui du recrutement sur l'année écoulée. Vous mettez sur la saison. Bah, pour l'instant.
El Ainaoui.
El Ainaoui. Aguilar. Ok.
Wai.
Non.
Bah oui.
Réussite.
Wai, c'est une réussite.
Bah pour l'instant, c'est qu'une toute petite réussite. Ah, et dans 6 mois, ça sera une grande réussite.
Ça reste à confirmer.
À 35 millions, c'est quand même cher.
Faut
petite
confirmer.
Réussite.
Faut
mais
confirmer.
C'est pas un échec, mais pour l'instant, c'est pas un échec.
Bon, c'est entre deux. C'est neutre. C'est neutre.
C'est ça.
D'autres réussites.
Spearings.
Magnifique.
Bon,
Mawasa. Flop. Autre flop.
Chavez, c'est une réussite.
Pas mal, oui, il faut du temps, je pense.
Ouais, c'est un gamin de 21 ans
qui vient d'arriver
il a tout de suite joué,
il a déjà réussi.
C'est correct. Koussanov.
Ouais, c'est une réussite, Koussanov.
Ouais,
Diouf, c'est une réussite ou pas, Andy Diouf?
Moi, je le mets dans la même catégorie que Eli Wai pour
neutre.
En progression, je trouve.
Bah, de toute façon, par rapport au budget, on a dépensé que 45 millions d'euros l'été dernier, donc ça va, 8e budget, on peut dépenser 45 millions. Surtout quand on en a empoché quoi, 70
minimum.
Allez, on va essayer de renforcer l'effectif l'été prochain. Ils sont réunis ce soir autour de la table. Oh, on rigole, on plaisante un petit peu. Adrien Bray pour France Bleu Nord, Sandrine Arécier pour La Voix du Nord, Cheb Dinincy, le coach de Lille Délivrance qui va monter en première division de district, Mathieu Rapès de France 3, Mathieu Bernard.
Pas d'accord.
Monsieur, 7 points, prend 7 points d'avance à 4 journées de la fin, c'est dans la boîte. Mathieu Dervaux de l'Indicateur des Flandres, il va me maudire dans un mois.
Tribune Nord,
portez la poisse.
Le buzz des réseaux.
L'hymne, l'hymne de Villa, Villa Park. Pas l'hymne d'Aston Villa, ce sont les supporters de Villa Park qui encouragent les Villans. Bon, ce quart de finale approche, c'est bon, c'est parti, le parfum de la vraie Coupe d'Europe est arrivé, même s'il a fait le travail. Mathieu, est-ce que vous sentez Lillois capable d'aller renverser cette équipe qui est aujourd'hui dans le top 5 du championnat anglais?
Quatrième du championnat d'Angleterre pour regarder...
Cinquième après ce week-end.
Mais... Attention, soyez précis.
Exactement, il faut. Pour regarder quand même la Première Ligue, c'est quand même un autre calibre. Et même le cinquième de Première Ligue, c'est fort. Et puis ils ont creusé l'écart avec... des clubs comme Manchester United, Chelsea, donc ouais, ça sera compliqué. Après, Lens a bien battu Arsenal. Pourquoi pas? Je pense qu'ils ont peut-être, les Lillois, intérêt à regarder Lens-Arsenal pour trouver la recette.
Exactement, Sandrine Arécier.
Bah, je pense que si Lille passe, très clairement, ce sera un exploit. En revanche, ils ont un atout, c'est le match retour qui est à la maison, donc il va falloir au moins limiter la casse et pourquoi pas gagner, effectivement, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas à Birmingham, ce sera très important de ne pas en prendre trop dans la musette. Pour moi, ils ne sont pas favoris, mais pourquoi pas. Aston Villa, c'est quand même un des grands, c'est quand même une institution en Angleterre.
C'est un grand endormi depuis longtemps quand même.
Oui, parce que la Ligue des Champions, il a gagné en 82, ça date en effet.
Dernier trophée, c'est 96.
Ouais, mais là, ils sont devant des clubs du Big Five.
Oui, mais ils ont un stade, ça fait partie, ils ont un stade derrière eux qui est un stade toujours à guichet fermé, de plus de 40 000, 42 000 et quelques, je crois. Enfin, il y a une vraie ambiance aussi derrière. Et puis, ils ont des internationaux partout. Enfin, donc, c'est un gros client. Donc, si Lille arrive à faire un coup à l'aller, pourquoi pas?
Ouais, c'est vrai qu'il y a du beau monde. Hein. Je pense à Diaby, l'international français, Watkins, l'attaquant de la sélection anglaise, Tillmans, le belge, Douglas Luiz dans l'entrejeu. Il y a Diego Carlos, qu'on a bien connu en championnat. Il y a Lucadine, forcément, notre nordiste. Chebdin, comment vous le
Emiliano
sentez?
Emiliano Martinez.
Ah oui, le gardien argentin, le fameux. Notre ami.
Bon, l'effectif de Villa, c'est quand même quelque chose. Hein. Mm-hmm. Moi aussi, un grand amateur de la Première Ligue. C'est honnêtement, hein. Ça sera un exploit. Hein. Ça sera un exploit si Lille le fait. Mais je pense que ils ont de quoi y croire, parce que Aston Villa aussi, en ce moment,
ils sont moins bien.
Ça ricoche un peu par rapport à ce qu'ils faisaient au début de saison, parce qu'au début de saison, ils étaient leaders. Hein. Ils étaient leaders pendant un petit moment.
Ils ont joué le titre à une période de la saison.
Et là, ça va un peu moins bien. Mais après, l'effectif, il est incroyable.
Tous les postes sont doublés, voire triplés.
C'est ça, triplé. Okay. Moussa Diaby n'est pas un titulaire indiscutable. Ouais. Alors que je pense à Lille, il joue tous les matchs et il ne sort pas.
Ah donc, non, on a Aidan Zegrova, on n'y touche pas.
Et puis ils ont un grand coach en plus.
Et Adam Ounas revient. Revient très fort.
De la 81e à la 90e.
Non, ça va être un très gros match. Hein.
Bon, c'est possible d'aller faire un résultat, Mathieu, déjà là-bas sur le match aller?
Ouais, moi j'y crois. Alors après, comme disaient Sandrine et Chebdin, je pense que ce sera un exploit. On va pas se mentir, il n'y avait pas pire tirage sur le papier que Aston Villa, je pense, dans les 7 autres équipes que l'OS qui reste. Ça présente pas non plus toutes les garanties. Ce week-end, ils font 3 partout, ils prennent 3 buts à domicile en 10 minutes. Il y a quand même des failles dans cette équipe, quoi. Vous pouvez sortir avec un 3 ou 4-0, mais il y a moyen d'aller mettre des buts, quoi, à cette équipe. Et donc, d'être en position. Et comme l'a dit Sandrine, un match retour à la maison, vous limitez la casse à l'aller ou vous perdez d'un but. Au retour, avec la ferveur, le public, les joueurs qui y croient, la magie de la Coupe d'Europe.
Adrien, pour conclure sur le sujet?
Je serais un peu d'avis de tout ce qu'on a déjà entendu. Je trouve ça très intéressant. Moi, tactiquement, je crois que je vais me régaler à voir ce duel entre Emery et Fonseca.
Réserve Paolo.
Falloir jouer bien sur les côtés et essayer de bien élargir le jeu. Ce sera, je vous la donne quelques jours avant, c'est ma clé du match.
Le souci, c'est que là, il ne va plus sortir. La porte, ça va pas le faire, monsieur Bray. Allez, dites-nous tout, vous, l'assistante Paolo Fonseca, je vous écoute.
Non, mais il va falloir faire très attention parce qu'Emery a tendance il a fait City la semaine dernière, à faire recentrer le jeu, à venir étouffer le jeu à l'intérieur. Il vient refermer tout ça, donc il va falloir essayer de trouver.
Mais il en a pris 4 à City, hein.
Oui, mais quand c'était bien fait, parce que ça s'est étiolé au fur et à mesure du match, parce que c'est une heure et demie, parce que c'est City, parce qu'il y a Phil Foden, parce qu'il y a Rodri.
Qu'est-ce que va mettre Lille? Quel compo va mettre aussi Fonseca, c'est sorti ça.
S'il faut écarter, il faut mettre Zegrova à gauche. Et...
Est-ce qu'il mettra la meilleure équipe possible?
Ah oui, oui, quand même. De toute façon, il va faire un 4-3-3.
Je pense qu'il va rester dans sa continuité. Mmh. Est-ce qu'il n'y aura pas des rotations?
Ils jouent pas en championnat pendant le week-end, en plus. Hein. Ils ont eu leur match qui a été décalé. Ça, c'est une bonne chose, je pense, de la part de la Ligue. Ouais.
On peut mettre l'équipe type, là, de toute façon. Enfin, il a pas de championnat. Il a deux matchs en deux semaines. C'est bon. Après, il y aura Strasbourg juste derrière, mais.
Pour ma part, je pense qu'il faut un gros Nabil Bentaleb.
Ah oui, oui, bien sûr. Ouais.
Pour pouvoir aller faire quelque chose là-bas.
Et peut-être qu'on aura le retour d'Angel Gomez, Mathieu Rapez. Ce serait important.
Ouais, ouais.
Peut-être un peu juste, mais.
Ça, c'est ouais, à voir dans quel état de forme il joue, mais c'est vrai que Bentaleb, qui a connu la première ligue, peut être important dans le contexte déjà. Lui, il sera pas impressionné. Et puis de donner ça à ses coéquipiers, de leur dire c'est un match de foot, on a beau être en Angleterre, il y a du monde, on peut le faire. Donc attention à Unai Emery, hein, spécialiste de la Coupe d'Europe, il saura motiver ses.
Non, mais on pourra faire une remontada au match retour, tout va bien. Donc
Allez, j'enregistre vos pronostics autour de cette table, comme ça on pourra les rediffuser après le match aller. On fait que le match aller. Adrien Bray, votre pronostic sur ce match aller?
Petite victoire de Villa, un but à zéro, Watkins.
Ok.
Carrément buteur.
Ah, il y a le buteur. Mais non, mais...
Quelle minute peut-être, monsieur Bray, peut-être?
Mathieu Dervaux.
Moi, je vais partir sur 2-1 pour Villa.
Ok, Seb Dininci.
Un partout.
Pas mal, j'apprécie. Sandrine Arestier.
Je triche pas, mais j'allais dire un partout aussi.
Ok,
ouais.
Mathieu Rapez.
Moi, je change mon pronostic. 1-0 pour Lille.
1-0 pour Lille.
Bah, faut jouer la grosse cote là.
Moi, 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. J'y crois pas trop, mais bon.
Moi non plus, mais.
Ça, c'est facile, ça, dire j'y crois pas trop. Comme ça, quand on ressortira les pronostics, voilà, ça sera déjà dit, j'y croyais pas. Donc,
comme ça, il se met pas les supporters à dos.
Mais je me rappelle d'un Lille-Milan.
Il est malin.
Personne n'y croyait.
Comment?
Lille-Milan, personne n'y croyait.
Ils ont des références quand même à Lille.
Exactement. Bon, bah on y croit. Allez, on va se régaler avec un nouvel extrait du Topcom spécial Coupe d'Europe, comme c'est le retour de la Coupe d'Europe.
Tribune Nord, le Topcom.
Allez. J'ai choisi deux buts d'un joueur qui a disparu de la circulation à Lens, puisqu'il est abonné au banc de touche, c'est Angelo Fulgini. Angelo Fulgini à Séville, match aller, le but du 1 partout.
Fulgini pied droit, Machado pied gauche. Moi la Fulgini, moi je le sens pas. Déjà sur les coups de pied arrêtés face à Metz, c'était pas top. Même aussi à Monaco. Laisse-moi cette balle à Deiver Machado.
Adrien Bray au commentaire.
Bonne frappe colombienne sous la barre transversale. Allez, allez, allez Deiver. Allez, c'est frappé par Angelo Fulgini, Lucas.
À votre décharge, il n'en a pas mis beaucoup depuis quand même.
Ah, c'est vrai que.
C'est ce qu'on appelle sentir le jeu.
Bah, sentir le jeu. Mais je n'étais pas le seul à sentir le jeu aussi. Allez, et puis après, il y a le moment mythique, la dernière de François Launay, qui est aujourd'hui directeur de la communication à Valenciennes. Match entre Lens et Séville, toujours. Et c'était cette fois-ci le match retour, la fin de rencontre. Et qui va surgir encore une fois? Angelo Fulgini. Et François va se mettre dans tous ses états.
Il a récupéré, vas-y, Flo Sotoka, le contre, le ballon pour Fulgini, qui va présenter tout seul devant Mitrovic. Vas-y, Angelo!
Je pense que c'est le meilleur.
Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas photo.
Il dit qu'il attend toujours le retour de sa voix, François.
Ce qui est bien, c'est qu'il a pu s'enflammer un petit peu avant de partir à VA, où c'est quand même un petit peu compliqué.
Il attend de la récupérer, en fait. Effectivement.
Allez, on conclut avec deux minutes de quiz.
Tribune Nord, le quiz de la semaine.
Alors, comme on n'a pas eu le temps de parler de Ligue 2, un petit mot de Dunkerque. Combien de points d'avance pour Dunkerque sur le premier relégable? Qui a la bonne réponse? Qui tente sa chance?
Moi.
3.
Bien joué, Seb Dine avec le téléphone sous les yeux. Bravo, super.
Je suis sur Villa.
Tricheur. Ça va, Aston Villa. Ouais, c'est le programme des matchs. Bon, ça va, ça passe. Autre question sur Loïs Openda, qui a réalisé un récital ce week-end. Allez-y, Sandrine, vous avez la réponse.
Deux passes décisives. Et je crois qu'il en est à 21 buts, comme la saison dernière à Lens.
J'avais préparé d'autres pistes. J'ai dit, il a remplacé son gardien exclu, il a sauté un penalty.
Ça vaut qu'un point malgré tout.
Pourquoi?
Il n'y a même pas eu de question, elle a trouvé la réponse.
C'est trois points.
Alors, Aston Villa, combien de buts encaissés sur les deux derniers matchs?
7. 4.
Oh, Mathieu, bravo.
Ah non, 4 et 3.
3 Brentford et 4 City.
Les deux derniers matchs. Oui, les deux derniers matchs. Combien de victoires sur les 5 derniers matchs de Première Ligue? Première Ligue.
2.
Adrien, il faut pas montrer le doigt, il faut répondre.
C'est dans la parce que j'ai pas de micro. Pour vous dire que j'ai la réponse, c'est une, non ?
Voilà, exactement, exactement. Je reviens à Valenciennes en. Non. Regardez pas mon écran, Adrien. Il y a que des tricheurs autour de cette table. Mardi dernier, Ahmed Kantari avait bluffé sur la blessure d'un joueur à Lyon. Joueur finalement titulaire. De qui s'agit-il ?
Alain Linguet.
Bon, je savais que vous seriez bon là-dessus. Tiens, attendez. La place basket, la place de l'ESBVA à la fin de la saison régulière. Voilà.
Trop facile. Ça.
Donnez-moi les trois adversaires le week-end prochain lors du Final Four de l'Euroleague.
Prague, Fenerbahçe, Mersin.
Vous êtes au top. Et pour conclure, combien de kilomètres en solitaire dans Paris-Roubaix pour vendre
60,
la
poule
60.
Ouais. Tout ça, c'est j'ai créé ce quiz en lisant La Voix du Nord et La Voix des Sports. Donc je vous le conseille, La Voix du Nord, La Voix des Sports, vous aviez lu, c'est parfait. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Tribune Nord, bien entendu. On a un beau programme d'ici là. Je salue autour de la table Mathieu Rapez. Vous serez à Mersin.
Eh oui, c'est quand même l'Euroleague, hein. C'est avec des champions du foot, du basket. Voilà.
Mathieu Rapez sera à Mersin. Mathieu Dervaux, vous serez où cette semaine ?
À l'indicateur des Flandres.
Ben voilà.
C'est un peu moins sexy, mais c'est la vie aussi.
Je salue également Adrien Bray, Sandrine Arestier, chef d'Initi. Le match de la montée, c'est pour quand alors ?
Peut-être ce week-end.
Peut-être ce week-end ?
On y sera plus proche.
Voilà. On vous envoie François Donnet pour commenter. Je vous rappelle que notre prochain direct, ce sera jeudi. Soirée spéciale pour la Ligue Europa Conférence entre 20h et minuit. On vous retrouve au 03 20 55 89 89 pour suivre le match entre Aston Villa et Lille. Je rappelle que c'est Sylvain, je ne l'ai pas encore donné, c'est Sylvain de Gomeni qui a remporté le ballon Kipsta Decathlon. Bonne soirée à tous sur Bleu Nord.